Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Salut Alex.
Salut Charline.
Eddie, c'est vraiment bien cette série 10%.
Hein. Les coulisses du cinéma, ce monde merveilleux.
Et en plus aujourd'hui, on est avec Laure Calamy.
Mais oui, je joue Noémie, c'est l'assistante de Mathias Barneville.
Oh, j'adore, elle est très rigolote.
Mais oui, mais moi ça m'a donné des envies.
Ah ouais, de jouer?
Non. D'ailleurs, Charline, est-ce que tu veux pas changer d'air, te renouveler, aller vers d'autres horizons?
Ouais, mais comment ça?
Tout le monde te connaît à France Inter, tu fais partie des meufs, faut rebondir.
Oh, Europe 1?
Non, j'ai dit rebondir, je te propose plus beau, plus grand. Charline, enlarge your horizon.
Oh oui.
Le cinéma d'auteur.
Non, tu crois?
Mais oui, moi je crois en toi comme comédienne, je vais être ton agent. Je t'ai écouté dans le rôle de la Gaïcha, dans le sketch de mercredi.
Je vais bien m'occuper de toi, mon petit Carlos. Tu aimes les enjoliveurs? Montre-moi ton changement de vitesse.
Finesse d'interprétation.
Ah ouais, et en plus, on n'avait pas répété.
Mais oui, mais ça, c'est les vraies actrices. Tu joues pas, tu es.
Non, mais au moins, tu fais la Gaïcha, je fais la Gaïcha.
Ça t'aidera quand je te présenterai Harvey Weinstein.
Hein, mais... Alors, mais qu'est-ce qu'on fait là?
Eh ben, j'ai contacté un réalisateur de la nouvelle vague japonaise.
Fukushima?
Hein?
Non, rien vague, Fukushima.
Non, pardon. C'est fini, les blagounettes. Hein.
Ouais, d'accord.
Eh ben, il t'a adoré dans la chute du sketch.
Carlos, soulève-moi le capot.
Et t'es engagé.
Oh là, mon Dieu, Alex, je te dois tout.
Non, pas tout. 10%.
Bonjour la France Inter, vous écoutez la Startup Émission, cet endroit où la blague fouette l'actualité à coups de réforme. Et voici les trois infos qui vont donc courir plus vite jusqu'à 18h. Les femmes sont nombreuses à avoir revêtu le jaune, dont notre invité a un choix de pull adéquat. Certaines manifestent pour la première fois, elles sont même souvent aux avant-postes du mouvement. Alors cela aide-t-il à tempérer ce mouvement?
Il y a la surboom de samedi.
Boum, pas sur boum.
Une adolescente de 15 ans est à la tête d'un groupe de jeunes qui a assigné Donald Trump en justice en raison de sa responsabilité dans le dérèglement climatique. Alors que leur répond l'avocate du président américain?
Il faut pendre les écolos tant qu'il y a des arbres. Il faut pendre les écolos tant qu'il y a des arbres.
Vous souvenez-vous de Hervé Mariton? Hervé Mariton, c'était le bon copain de Christine Boutin et de Brigitte Bardot à la Manif pour tous. Le candidat à la primaire de la droite aussi, qui s'est bien gamellé. Alors il a quitté la politique, mais il reste sur scène, il joue au théâtre. Bon bah comme ses anciens collègues et au théâtre quoi. C'est...
Je n'ai jamais eu. De quoi t'en suis, Jean-Jacques Bourdin?
Voilà, et tous les jours, on est les yeux dans les yeux avec Alex Vizorek.
C'est vrai, bonjour Charlie de Vanhoenacker. Eh bien, ce vendredi, j'ai une belle équipe à 17h20, celui qui prend 10% sur chaque disque d'inconnu qu'il diffuse sur cette antenne. Autant vous dire qu'il brasse un pognon de dingue. C'est Chewbacca, bonjour.
Ce serait assez incroyable, mais pourquoi pas, hein. Aujourd'hui, on parle de Victor Démé.
Bam, encore du blé.
Ouais.
À 17h30, son agent nous a écrit de Lausanne pour nous dire que, eh ben, elle est extrêmement souffrante. Je comprends, car si j'habitais en Suisse, je n'irais pas bien tous les jours non plus. On réécoutera donc une chronique de Christine Gonzalez. Elle a choisi « Les amours dans l'au-delà ». Ça vous va, Serge Reggiani?
Faites donc n'importe quoi, mais faites quelque chose.
Eh ben, c'est ça qu'on va faire. À 17h40, en revanche, celle dont l'agent la gère depuis plus de 30 ans depuis le Burkina Faso et est intraitable, l'occasion de saluer la mère de Rukyata Ouedraogo. Bonjour.
Bonjour Alex, bonjour tout le monde.
De quoi on va parler?
On va parler de Jacques Faucard.
Oula!
Oh là, ça sent la France-Afrique. Et voici.
Voilà, 17h55. Celui qui est plus fort que l'orchestre du Titanic, car même sous l'eau, il continuerait à jouer des chansons anti-iceberg. C'est Frédéric Fromm.
Oui, on l'attend avec impatience.
On
était aussi impatients d'annoncer notre invité. Voici celle qui va occuper au minimum 50% de l'open space. Vous êtes.
Laure Calamy.
Mais oui!
France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, par Jupiter.
Je crois que l'auditeur a compris qu'on était assez enthousiaste à l'idée de vous accueillir. Assez enthousiaste aussi de cette saison 3 de 10% qui vient de s'achever. C'est pour ça que nous, on a m'en parlé avec un peu de recul, Laure Calamy. Mais il faut dire aussi que cette série, bon, le DVD de la saison 3 est disponible. Et aussi, il existe un coffret intégral VOD, DVD, donc pour tout revoir.
Beau cadeau de Noël, ça.
Ça arrive des gens qui n'aiment pas 10%, c'est pas possible ça. C'est vraiment la série qui fonctionne très très bien, qui est, qui est drôle, qui a toutes les qualités.
C'est vrai, mais bah oui. Il faudrait les chercher, ceux qui n'aiment pas. Je vais leur offrir personnellement.
Alors, vous incarnez Noémie dans cette série. Vous êtes l'assistante de Mathias Barneville, avec un côté... Alors, vous avez été sa maîtresse, avec un côté hypersensible. Et votre, dans cette saison 3, votre personnage s'est considérablement étoffé.
Oui.
Est-ce que vous avez eu des... Maintenant que cette série est finie, qu'elle a été diffusée sur France 2, est-ce que vous avez eu des retours sur ce personnage, sur son développement? Est-ce que quand une série se termine comme ça, on a des retours?
Oui, oui, c'est vrai que les gens étaient assez conquis par comment elle devient, comment elle est, et par son évolution. C'est vrai qu'elle est très très riche cette saison-là, et puis assez inattendue, quoi, comment d'un coup elle prend beaucoup plus d'autorité, voire parfois elle peut être un peu odieuse par moment. Ah. On sent quelques petites pointes comme ça quand elle est avec la jeune femme qui organise la fête. Bon, d'un coup on sent un petit côté autoritaire qui est prêt à sortir.
Donc votre personnage a surpris,
et voilà, il a surpris, et voilà, puis elle prend le dessus en quelque sorte sur Mathias, dans tous les sens du terme.
On l'attendait, ça.
On avait envie, et bah oui.
Mais alors, comment ça se fait que ce rôle il s'est étoffé? Est-ce que c'est votre agent qui a téléphoné à la porte en disant maintenant ça suffit, on lui a grandi son rôle?
Si seulement c'était. Après c'est vrai que les auteurs et les autrices s'inspirent beaucoup de nos personnalités, de nous, de ce qui s'est passé déjà dès la première saison, par exemple entre moi et Nicolas, Maury qui fait Hervé, enfin
l'autre
voilà,
assistant.
Coup, ouais. Voilà, il y a des choses qui se sont créées parce que d'un coup il y a eu une rencontre sur le plateau d'acteurs, de humaines aussi, etc. Et donc voilà, ils rebondissent un peu sur ce qui se passe, quoi, sur
ça influe
sur
vos
la vie
rôles.
Du plateau, quoi. Ouais.
L'un des deux réalisateurs, Marc Fitoussi, dit de vous: elle peut aller très loin dans l'émotion. ça vous le saviez et vous en jouez. Comment ça vient? C'est amusant qu'un réalisateur avec aussi plein d'acteurs ultra confirmés sont les guests qui sont dans cette série, qui est vraiment une satire du star system du cinéma, et lui dit elle va très très loin dans l'émotion. Ça, vous en étiez consciente et vous en jouiez, ou...
Ah bah oui, j'ai eu l'occasion de... Ça fait 15 ans que je fais ce... Non, je veux dire, même au théâtre, j'ai eu l'occasion d'explorer, je sais pas, une part, on va dire, plus tragique, ou voilà.
Je veux dire, ça fait partie de votre marque de fabrique, un peu, de votre...
Non, j'aime pas trop le... Non, mais disons, bah, ça me paraît être, je sais pas, c'est normal pour une actrice ou un acteur de vouloir explorer... d'aller dans tous les recoins de l'émotion, quoi, et du gouffre, et de ce qui est dangereux aussi, et de ce qui enflamme, de ce qui... Voilà, on a envie d'incendier, quand même.
Oui, alors, sauf samedi.
Vous vous dites que ça fait... ça fait 15 ans que vous faites ce métier, et c'est vrai que là, c'est un rôle quand même... J'imagine qu'on vous arrête dans la rue maintenant, qu'on vous parle de ce rôle-là.
Oui, on en parle.
Du coup, pour votre agent... Oui. Ouais. Qui va devoir gérer la suite de votre carrière avec vous. Qu'est-ce que ça implique? Parce que les choix de carrière, vous aviez joué avec Olivier Py, vous avez fait beaucoup de public, vous aviez même joué avec Thomas Bidguin, qui est quand même pour nous une énorme référence cinématographiquement parlant. comment vous allez gérer ça, de choisir des choses populaires parce que les gens ont envie de vous voir, mais aussi continuer à avoir cette exigence?
Je vais continuer comme j'ai toujours fait, c'est-à-dire de choisir...
Parce que côté bankable, c'est une nouvelle donnée quand même un peu.
Ah oui, enfin bankable, je sais pas, enfin
si,
en tout cas.
Allez.
Non, vous êtes coté en bourse, rassurant.
Non, mais rassurante en tant que un peu plus rassurante, quoi, pour les producteurs, les chaînes surtout, puisque c'est les chaînes dont il est question. Mais déjà par exemple là j'ai fait un film avec Mohamed Hamidi, là, Les Fouteuses, et puis en même temps je viens de terminer un film, il reste encore deux jours parce qu'il y a eu un... Enfin bref, on n'a pas pu tout à fait terminer parce qu'il n'y a pas énormément d'argent, mais le film d'Hubert Viel, qui est à l'exact opposé, quoi. Donc c'est... Enfin, je veux dire, financièrement parlant, etc. Mais...
Vous équilibrez.
Mais voilà, moi je vais continuer de faire le cinéma que j'aime et de...
Elle est incorruptible, Laure Calamy. Épatante Noémie dans la saison 3 de 10%, dont le coffret est disponible, coffret intégral, une série qu'on vous recommande chaudement. Difficile d'être passé à côté, c'était sur France 2, mais vous pouvez la conserver à la maison, sur l'étagère, et puis Et puis l'armater, quoi. Voilà, vous êtes sur France Inter. Par Jupiter, on écoute les portes qui allument le feu. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Bienvenue sur France Inter, si vous nous rejoignez, nous avons la chance d'être en compagnie de Laure Calamy qui vient enjailler votre vendredi. Laure Calamy, cette nouvelle saison de 10% qui vient de s'achever, donc on prend un peu de recul. Et on peut se procurer l'intégrale VOD, DVD, pour entourer Laure Calamy, Alex Vizorek.
Eh bien, je vois Rukia Ouédraogo et Djoubaka. Christine Gonzalez n'est pas là aujourd'hui, mais on l'entendra quand même.
Oh, ça c'est la magie de l'au-delà
et du plexe. Frédéric Fromet viendra chanter.
Allez, l'information.
Celui qui se dit, bah tiens, je vais bloquer ici, ça va être formidable, ça va mettre le bololo partout.
Le journal de presque 17h17.
On commence par les titres.
Les forces de l'ordre pourraient recourir à des véhicules blindés samedi à Paris pour protéger certains bâtiments.
Eh oui, c'est dingue, hein. Quoi qu'il se passe, que ce soit en France ou en Irak, dès qu'il y a du pétrole, c'est la guerre.
Francis Lalanne souhaite que les Gilets jaunes se présentent aux européennes et propose de financer leur campagne.
Qu'est-ce que je vous disais, l'escalade de la violence continue.
Et des brèves.
Bah oui, bah comme a priori la fin du monde c'est pour demain, on va pas arrêter les brèves maintenant. Ouais, oui.
Et on commence par ces images qui ont fait le tour du monde.
Eh oui, des enfants agenouillés, les mains sur la tête dans une école, dans un de ces pays contrôlés par l'État islamique.
Non, Alex, pas du tout.
Et c'est
tout,
pas parce
non.
que c'est loin qu'il faut rester insensible.
Alex, non, les images, c'était en France.
Non, mais j'arrive de rajouter pas des blagues dans le journal. Hein, la barbarie n'a pas de frontières.
Mais non, mais c'était dans un lycée à Mantes-la-Jolie, je vous dis, enfin.
Mais c'est
ça qui fait d'autant plus scandale, enfin.
Météo, les températures.
Oui, ça va, reprend ses esprits, Alex, évidemment. Politique, Xavier Niel, oui. Le grand patron français de Free, était hier invité sur Europe 1.
Et on n'est pas certain qu'ils vivent les événements comme le reste des Français.
Je crois qu'on a un super président qui est capable d'amener des choses, de réformer la France.
À mon avis, il n'a pas Free, parce qu'il n'a pas tout compris.
Revenons-en aux Gilets jaunes. À cause des risques de violence dans Paris ce week-end, la première édition du festival Electro Innocent, parrainé par Jean-Michel Jarre, a été reportée.
Eh oui, l'occasion peut-être, si les Gilets jaunes nous écoutent, de donner les dates de tournée de Joule. Le 8...
Non, pas la peine. Alors ce week-end, on est vendredi, faut rester concentré. Ce week-end aura également lieu les grandes marches à travers le monde pour le climat.
Oui, et ça c'est important.
Pour rappeler l'urgence climatique au gouvernement. Et ce, alors que ni Emmanuel Macron, ni Édouard Philippe ne se sont déplacés à la COP24.
Et oui, c'est pas compliqué. La France a réussi la prouesse d'être encore plus ridicule à la COP24 qu'à l'Eurovision. C'est vous dire.
Emmanuel Macron et Édouard Philippe, qui, c'est donc pas une surprise, sont au plus bas niveau de popularité.
Oui, à ce niveau-là, je crois qu'ils pourraient égorger un bébé phoque en direct sur BFM TV. Ils ne tomberaient pas plus bas.
pratiquez encore avec cette boulette.
Oui, alors c'est peut-être le plus drôle de la semaine. Benoît Hamon n'avait pas adhéré lui-même à son propre mouvement Génération
Antoine. En effet, l'ex-candidat socialiste explique n'avoir pas eu le temps jusqu'à la semaine dernière de s'encarter dans son propre parti.
Oui, bah on s'en moque. Résultat, depuis la semaine passée, il s'est inscrit et le nombre d'adhérents a doublé. Donc
ça, c'est un peu pour ça qu'on l'aime bien.
Oui, on l'aime, voilà. On l'aime.
Science, la NASA a envoyé une sonde sur un astéroïde nommé Bennu afin, selon leur déclaration, de remonter à l'origine du système solaire.
Mais oui, j'ai bien l'impression qu'aujourd'hui, il va être plus facile de dater précisément la naissance du système solaire que celle d'Ariel Dombal.
En effet. Et les brèves.
Et les brèves. Spécial sport avec d'abord cette formidable nouvelle. Badminton, Paris accueillera les championnats du monde en 2025. Je peux vous dire qu'avec Anne Hidalgo, c'est au moins la certitude de voir des volants dans Paris en 2025. Et c'est déjà pas mal.
Et la dernière.
Et la dernière, football. Didier Deschamps répond aux critiques des Belges. On ne savait pas qu'on avait critiqué. En disant, si le foot c'est avoir le ballon pour faire des papasses, fini. Papas. Bah ouais, alors je peux vous dire, Franck Ribéry il a dit non, le foot c'est avoir, faire des papasses avec des puputes.
Non, voilà, c'est bien,
c'est la
bien.
Dernière de la semaine, c'est bien de rester
et
là-dessus.
Merci Alex, et oui. Justement, à la fin de ce journal, vous m'avez écrit en gros caractère
exactement.
28,
oui.
Alex, virgule, vous serez en spectacle demain à Essine.
Oui.
C'est comme ça qu'on dit ?
Eh oui, c'est près
et
de Bordeaux.
Et dimanche, vous serez à Ruffec.
Mais merci Charline, comment vous savez tout
mais
ça ?
Mais écoutez, c'était écrit en gros, comme
voilà.
Ça. Vous n'avez pas manifesté, hein vous.
Mais c'est que je ne peux pas.
Bah oui, Ruffec et Estine.
Pour voilà. Faire rire la France.
Merci. Allez, Laure Calamy est en notre compagnie. On va profiter de votre présence pour parler des jaunes. Car beaucoup de femmes portent le gilet. Certaines manifestent pour la première fois, d'autres n'avaient plus battu le pavé depuis 68. Elles sont même souvent en première ligne. Alors, est-ce en cela une manifestation très contemporaine ? Est-ce que ça aide à tempérer éventuellement un peu le mouvement ? La tempérance féminine, vous savez, elle est célébrée depuis toujours, à part peut-être Madame Thatcher.
Chewbacca n'a pas bougé.
Non, c'est Jean-Luc Lahaye.
Fait semblant de balle.
Et on peut remercier Guillaume Meurice qui nous a donné cette idée hier soir.
Ah, c'est tout Guillaume.
On l'embrasse. Alors c'est un article paru hier dans L'Humanité qui relève le fait que le mouvement des Gilets jaunes est composé de beaucoup, beaucoup de femmes qui, parfois pour la première fois, sont dans le mouvement ou avaient peu manifesté. D'autres ont plus l'habitude. Vous qui êtes féministe, revendiquée, Laure Calamy, est-ce que vous aviez noté, vous, cet aspect ? Vous étiez dit, tiens, c'est vrai qu'il y a pas mal de femmes ou vous avez pas...
J'avais pas spécialement remarqué, honnêtement. Mais après, ça ne m'étonne pas, puisque la précarité est réservée aux femmes en majorité. Féminisation de la pauvreté depuis plusieurs années. Donc, ça ne m'étonne pas. Puis en même temps, après, ça m'a fait penser à la révolte du pain en 1789, où c'était les femmes qui étaient montées sur Versailles en première. Et voilà.
Donc, c'est aussi le reflet de la place qu'elles prennent dans la société aujourd'hui.
Oui, aussi. Oui. Mais là, justement, et en même temps, c'est intéressant, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent qu'elles n'avait jamais participé à aucune manifestation et j'ai l'impression que là il y a peut-être aussi s'emparer peut-être avec cette injustice qui devient insupportable de la chose politique
c'est ce que dit l'article de l'Humanité en disant que l'injustice les touche particulièrement que ça met beaucoup de
femmes et immigrées comme je fais une petite parenthèse sur les grévistes avant l'hôtel Hayat Vendôme qui sont toujours qui sont quand même en grève depuis plus d'un mois et qui sont à l'image de tout cela
Vous êtes féministe depuis toute jeune, presque enfant comment ça se fait-il que vous ayez déclenché cette prise de conscience?
Quel trauma.
Comment est-ce que si tôt pour avoir cette prise de conscience, qu'est-ce qui l'a déclenché?
Alors sans doute parce que disons que petite fille, on m'appelait, on me disait tout le temps, c'est un garçon manqué, expression vraiment agaçante, puisque on a l'impression on a raté quelque chose. Il y a un échec. Alors que moi je me disais je suis une fille réussie, et en fait moi vraiment c'est par le langage les règles de grammaire, le masculin l'emporte sur le féminin, c'est vraiment un truc. Physiquement je ressentais quelque chose en classe, j'étais comme ça, mais même dans mon sexe, hein, je dois le dire, il y avait quelque chose vraiment de... Et d'ailleurs, je m'étais disputée avec un garçon dans la cour d'école à cause de cette règle. On avait fini par s'engueuler, bon bref.
Et vous avez bien raison, la langue française dispose des outils pour féminiser, il n'y a pas de raison.
Exactement, et puis surtout que, par exemple, la féminisation des métiers, des mots, par exemple, dire auteur, autrice, écrivain, écrivaine, maintenant on arrive à le dire. Mais bon,
vous avez une agente.
Une agente, voilà. Tout à fait. Et je suis pour, parce que le langage structure la pensée, c'est extrêmement important, d'autant que c'est très récent, ça date du XVIIe siècle. Mm-hmm. Voilà, et ça a été fait quand même dans un but très précis, c'est-à-dire on a dit il faut que les grammairiens à l'époque disaient il faut que le genre neutre soit représenté par le genre le plus noble, le genre supérieur, le genre masculin. Mm-hmm. Donc voilà, il y a quelque chose quand même qui est... On voit de quoi on parle, quoi.
Hein. Eh bien, vous savez quoi, on va inviter bientôt Bernard Cerchilini, le linguiste, qui a écrit un ouvrage à ce sujet sur la féminisation des noms, et je vais vous dire, ça va pas piquer d'Alton.
Et il y a une petite anecdote, d'ailleurs, à l'époque, parce que les femmes de la cour étaient contre ce changement de grammaire. Et si je peux raconter petite anecdote...
Ça vous dérange qu'on écoute le bonhomme parler de musique?
Non, poursuivez là.
Je vais raconter une anecdote entre Madame de Sévigné et Gilles Ménage. Voilà, non, mais parce que donc le fameux Gilles Ménage, genre on ne sait pas qui c'est, lui dit, écoutez, je suis bien enrhumée ce matin, et Madame Sévigné lui dit, écoutez, je la suis aussi. Et il fait, mais vous savez que selon nos nouvelles règles de grammaire, vous devriez dire, je le suis aussi. Elle fait, écoutez, je ne dirai jamais ça, j'aurais l'impression d'avoir du poil au menton.
Ouais, ça valait la
peine. Laure Calamy est avec nous pour enjailler ce vendredi. Et lui aussi, Chewbacca avec la musique.
Bah ouais, ça m'arrive.
Allons-y. Allez.
Bah, il y a tout juste 10 ans, jour pour jour, il y avait sur cette chaîne une émission de géopolitique, et pourtant elle tourne, menée par Jean Macfour. Et tous les jours, en fait, nous passions des musiques du bout du monde. Et à la fin de l'année 2008, nous avions proposé aux auditeurs de choisir l'album de l'année. Et leur choix s'était porté sur un talent tardif et incroyable, Victor Démé. Et c'était vraiment une victoire à la barbe des groupes internationaux et très très connus. Alors si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est que exactement 10 ans après, jour pour jour, l'album de Démé ressort en vinyle. Donc c'est-à-dire que vous allez tous acheter une chaîne à galettes, là, rien pour ça quoi. Et l'histoire de ce disque, en fait, les intariennes et les intariens ne le connaissaient pas forcément. Au Burkina Faso, Victor Démé avait presque 30 ans de carrière, et faute de gagner sa vie avec la musique, il possédait un petit atelier de couture où il travaillait, ses 6 filles autour de lui, dans une maison avec une cour commune, sans eau courante, électricité. Et enfin, il avait appris à jouer de la machine à coudre avec son père et le chant avec sa mère, qui était une griotte qui officiait pour les baptêmes et les mariages. Mais très très jeune, en fait, il a choisi de quitter le Burkina, de se convertir à une religion où on laissera ses talents s'exprimer sans pression. Donc il change de prénom, part en Côte d'Ivoire et joue avec différents orchestres. Et puis au milieu des années 80, on lui propose d'enregistrer un disque là-bas, mais bon... Son producteur disparaît, problème d'agent sans doute, et il a 26 ans, il décide de retourner au Burkina, et pendant 20 ans, bon gré mal gré en fait, il va jouer le plus souvent possible ses chansons, mais aussi celles des autres, du traditionnel et du cubain, parce que les vieilles tatis et les vieux tontons aiment bien aussi secouer leurs popotins. Rocada, on en parlera. Et puis, il chope cette maladie horrible qui m'a fait faire des cauchemars, dont Rocada nous a parlé, le truc qui te bouffe les gencives, le nomain, et là il se dit, vraiment, oh, c'est fini pour moi, quoi. D'autant plus qu'en fait, il n'a pas un sou dans sa poche pour se payer un enregistrement dans le seul studio d'État. Il finit par guérir, et là, franchement, la vie, elle est parfois un peu jolie. À Ouagadougou, il y a un garçon qui s'appelle Camille Louvel, qui s'occupe d'un club local, le Ouaga Jungle. Et il va proposer à Victor Démé, qui a 46 piges quand même, d'enregistrer son premier disque. Alors ils vont faire simple, hein. Ils sont au fond du jardin de Camille Louvel, ils ont installé un studio de fortune, c'est-à-dire que la pièce est séparée par un pare-brise de camion. D'un côté, il y a les musiciens avec leur micro, et de l'autre, une simple console 4 pistes. Et Démé accouche de ce disque en y mettant toutes ses années d'attente. Son folk blues mandingue, il est poignant, il imagine sans doute peut-être qu'il s'agira là de son unique disque. Hein. Il transmet dans ses textes des hommages aux femmes burkinabées, à leur force. Il prône la tolérance et la liberté. Ce disque a été enregistré sur 6 mois, avec un budget global, tenez-vous bien, de 2000 boules, 2000 euros. Et beaucoup de débrouillardise. Et puis, il faut que ce disque sorte quand même un jour. Il l'envoie en Europe. Il y a 8 labels qui le refusent en fait, directement.
Le flair.
C'est aujourd'hui un des disques les plus importants enregistrés au Burkina Faso. Et puis un jour, il arrive chez nous à France Inter et nous le défendons franchement immédiatement parce que sa sincérité, sa simplicité, eh ben, ça s'entend et ça se partage. Voilà, ben, depuis Victor nous a lâchés. Mais ses chansons et sa trajectoire de vie ben, continuent à, moi, à me toucher en tout cas. Comme il l'avait fait en 2008 avec nos auditeurs. Voilà, tout ça c'est beau comme un oiseau. Et on écoute John Mayer.
Kile masa bunyuma dunya bechendi tegele me mogodo la ona kima sabunyuma dunya bechendi dabe yele la lomino dabe kasi wolonde la dunya bechendi.
Merci beaucoup, Djoubaka. Rukyata Ouedraogo, Victor Démé, c'est...
Ah, c'est vraiment un beau cadeau que vous me faites là, Djoubaka. Vraiment, merci du fond du cœur parce que c'est quelqu'un que j'affectionne particulièrement. Et là, pendant la musique, je me voyais dans les rues de Bobo, de Ouaga. Et c'était un mec hyper simple et avec des mots forts et poignants. Et ça, c'est... Ça fait quelque chose, ouais. C'est vraiment dommage, quoi. Il est parti trop tôt pour moi.
Bah, sa musique reste, c'est ça?
Oui,
ça. Ouais, on peut le réécouter.
Il est immortel.
Son fameux album.
Ouais, merci.
C'est Laure Calamy qui est en notre compagnie. Bien sûr, il y a 10% avec le coffret intégral disponible. Et on pourra bientôt vous voir en tournée au théâtre, dans toute la France.
Tout à fait.
Dans le Marivaux.
Dans le jeu de l'amour et du hasard, mis en scène par Catherine Yégel.
C'est formidable. Moi, je l'ai vu à la Porte Saint-Martin, c'est magnifique.
Et voilà. Avec Vincent Dedienne, vous faites la tournée.
Voilà, exactement. Oui, Clotilde M, Emmanuel Noblet.
Que des gens formidables.
On peut aller voir Laure Calamy sur scène. Et aussi le 14 décembre, oui. Vous serez à la Maison de la Poésie pour une lecture musicale avec le pianiste Jérémy Ababou.
Tout à fait. Exact. Pour lire, lire, c'est un peu plus qu'une lecture, évidemment. Ouais. Le fusil de chasse, de Inoue, un auteur japonais. Et c'est très, j'aime beaucoup et ça va être one shot, voilà.
Ah, très bien, profitez-en alors si vous êtes par là. Laure Calamy avec nous, on a parlé de 10%, donc on va parler de cinéma. Christine Gonzalez, est souffrante, on l'embrasse très très fort, on la retrouvera vendredi. Et du fond de son lit en Suisse, comme on parlait cinéma, elle a choisi une chronique ad hoc. Eh bien, c'est à vous, Christine Gonzalez.
Vous m'appelez Christine Gonzalez, vous avez fait une erreur, excusez-moi de vous reprendre. Oui. C'est Christine Gonzatex.
Ah.
Bonjour à tous.
Bonjour les amours. Trop
oui,
bien.
Bienvenue dans les amours de l'au-delà avec nous trois couples légendaires. Simone Signoret, Yves Montand, bonjour, vous allez bien?
Oui.
Un autre couple qui a vécu une passion secrète pendant 2 ans lorsqu'ils étaient vivants, Serge Reggiani et Barbara. Ça va Barbara?
Oui, ça va.
Et Serge Reggiani aussi?
Ah oui.
Troisième couple qui date du 19e siècle, Frédéric Chopin et Georges Sand, bienvenue à tous les deux.
Ah,
vous ne parlez pas? Libre à vous, bienvenue dans Les Amours. Première manche, alors la règle est très simple, les femmes sont retirées dans une autre salle de l'au-delà. Je pose une question aux hommes et leur moitié, tout à l'heure, devront trouver la bonne réponse. Enfin, vous connaissez l'histoire. Celui qui trouve la bonne réponse va en finale ou question bonus si nécessaire. Vous êtes prêts?
Oui.
Yves Montand, qu'est-ce qui est, selon vous, le plus terrible pour le couple?
Ah, je ne veux pas parler de Simone, parce qu'avec Simone, c'est une telle complicité. Je veux dire, c'est moi et c'est elle, et c'est une parfaite réussite.
Oui, mais tout n'est pas parfait, je suppose.
Non.
Alors, trouvez quelque chose qui fait mal dans votre couple, ce que vous considérez comme le pire.
Non, vous plaisantez.
Non, mais écoutez, il faut qu'on avance, là, dites quelque chose.
Oui, enfin, j'essaie.
Qu'est-ce qui a été le plus éprouvant?
La vie fout le camp et très vite.
D'accord. Donc on note le temps qui passe. Voilà. Vous pensez vraiment que Simone Signoret va trouver ça?
On ne sait jamais.
Bon. Serge Reggiani, à vous. Qu'est-ce qui est, selon vous, le plus terrible pour le couple?
On a peur de ne pas être à la hauteur.
Peur de ne pas être à la hauteur, on note cette réponse. Ben, moi, vous avez répondu plus vite que mon temps.
Je ne crois pas donner l'impression de quelqu'un qui réfléchit.
Vous pensez que Barbara va trouver?
Je ne suis pas du tout serein.
Frédéric Chopin, je vous pose également la question. Qu'est-ce qui est, selon vous, le pire pour le couple? Ouais, non, faut répondre un truc là. Ouais, d'accord, le truc il sert à rien. Bon, on fait revenir les épouses là tout de suite. À vous, mesdames. Alors, on a demandé à vos époux, compagnons et amants, qu'est-ce qui est selon vous le plus terrible pour un couple? Qui commence? Barbara?
Ce qui est terrible dans le couple, c'est de ne pas pouvoir se renouveler. Moi, je ne suis pas sûre d'avoir la richesse de me renouveler pour séduire l'autre toute une vie.
Ne pas savoir se renouveler. Mauvaise réponse. Reggiani nous avait répondu peur de ne pas être à la hauteur. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il a un peu peur de vous. C'est vrai que vous avez toujours impressionné les hommes et puis vous êtes plutôt solitaire.
C'est une grande part d'égocentrisme que j'ai en moi, certainement. Mmh. Aussi une grande faiblesse, ne pas savoir vivre à deux, très probablement.
Oui, donc vous dites que la vie à deux, c'est pas votre truc.
Bon, écoutez, j'aime mieux, de toute façon, un petit peu m'ennuyer seul que m'ennuyer à deux ou m'ennuyer à plusieurs. Il n'y a rien de plus abominable que les gens qui font semblant de faire cuicui, qui pas du tout, ça m'ennuie. C'est pas mon truc.
Bon, ben Serge Reggiani, zéro avenir, mais surtout, zéro point.
Nom de Dieu!
Qu'est-ce que vous avez dit?
J'ai dit nom de Dieu!
Écoutez, reprenez votre voix, après on va dire que je trafique les archives.
Ça y est, c'est fait.
Bon. À vous, Simone Signoret. À votre avis, le plus terrible à traverser dans un couple?
Des coups du cœur, enfin.
Les coups de cœur, vous voulez dire les infidélités de mon temps?
Il y a eu des trous. Oui. Je peux dire oui.
Vous pensez à sa fameuse aventure avec Marilyn Monroe?
C'est pas pour faire une émission conjugale, mais... Ça m'est complètement égal.
Mauvaise réponse. Yves Montand avait répondu le temps qui passe.
C'est-à-dire?
Bah, je sais pas, enfin, Yves, répondez-lui.
Pardon.
Yves Montand.
Qui?
Vous.
Je me sens pas complètement à l'aise.
Bon, vous savez, Marine, vous inquiétez pas, hein, tout le monde est au courant. Hein.
C'est ça qui est affolant.
Bon, bref, Georges Sand, qu'est-ce qu'a répondu Chopin, à votre avis? Ouais, je m'en doutais. Bon, bah, vous êtes éliminés pour absentéisme vocal, vous m'emmerdez tous les deux. Pour départager les deux couples qui nous restent, une question bonus. Le premier qui répond à cette question a gagné. Quel est le mot qui rime le mieux avec actuel gouvernement?
C'est consternant.
Consternant, excellente réponse, Yves Montand. Vous allez en finale avec Simone Signoret. Finale. Simone Signoret, je pose des questions à Yves Montand. Vous dites si oui ou non il peut y répondre. Et seulement si Simone dit oui, Yves, vous pourrez y répondre. Et si vous arrivez à donner deux bonnes réponses en 30 secondes, vous avez gagné. Prêt? Top. Est-ce que Montand connaît le point commun entre le glyphosate et touche pas à mon poste?
Oui.
Montand?
Oui. C'est très dangereux. Et pour tout le monde.
Bonne réponse. Un point. Est-ce que Montand sait si c'est vrai ou faux que la vérité, il n'y a que ça de vrai?
Ah oui.
Montand?
Ce n'est pas vrai, ce n'est plus vrai.
Faux, c'était vrai. Dans le nom Éric Zemmour, est-ce que Montand connaît l'origine du prénom Éric?
Oui, oui. Eh oui! Après, il va appeler un chat. Si c'est un imbécile, il faut dire que c'est un imbécile.
Imbécile, bonne réponse. Deux points dans les temps, c'est gagné. Simone. Oh, Simone, vous êtes contente?
Quelle chance.
Oui. Yves Montand, Simone Signoret, couple vainqueur des Amours de l'au-delà. Belle soirée à toutes et à tous.
Merci Christine Gonzalez, qu'on retrouve bien sûr vendredi prochain en forme, on espère.
A priori,
bien
c'est sûr.
Voilà. Il y a du Ricola, tout ça là-bas. Ça doit être fourni en Suisse. Allez, nous sommes toujours avec Laure Calamy. Vous écoutez Par Jupiter sur France Inter. Il y a toujours Rukweta, Wedraogo et Djoubaka et bien sûr Alex. Et parlons, tiens, de Jaiden Fautlin. Elle a aujourd'hui 15 ans. Mais quand elle en avait 12, elle a déposé plainte avec 20 autres jeunes contre l'administration américaine pour l'aggravation du dérèglement climatique. Donc ils ont porté plainte sous l'administration Obama. Le procès devait s'ouvrir le 29 octobre, il est bloqué par le gouvernement.
Oh. Oh, étonnant.
Ouais, voilà, il prend une autre tournure, c'est vrai aussi avec Donald Trump. Bah, vous savez, digne représentant de Monsieur Sylvestre.
On lance la nouvelle Chevrolet, le 15. Vous vous occupez de voiture aussi? Ouais, vendre une bagnole ou vendre de la guerre, c'est pareil, hein. Le principe est le même. Faut fourguer un produit à des cons qu'on n'a pas besoin. L'important, c'est pas le produit, hein. C'est le nombre de cons qu'ils consomment.
Mais non, enfin, les gens ne sont pas bêtes à ce point-là.
Si, si. Ah ben, ils sont complètement cons, hein. Je le sais, c'est moi qui les fabrique, c'est mon boulot. S'ils étaient pas cons, tu crois qu'on pourrait leur vendre des Britney Spears, des chewing-gums qui lavent les dents et des Xantia Diesel?
Les guignols, mais ils nous manquent tellement, les guignols, bien sûr. Alors, on a abordé votre côté féministe tout à l'heure, on va aborder votre côté écolo, Laure Calamy. Voilà, donc c'est le procès du siècle aux États-Unis, et puis pour l'instant, il est reporté sine die. Donc, entre la voie juridique qui est choisie par des très jeunes, cette jeune fille a 15 ans aujourd'hui, très jeunes américains, et puis les marches pour le climat qui ont lieu partout dans le monde samedi, on peut pas dire que là la jeune génération se bouge pas. Vous vous sentez, j'imagine, en phase avec ça et ça vous donne un peu d'optimisme?
Un petit peu, ouais. Bien que ce soit très déprimant, mais
c'est à ça que vous raccrochez.
Ouais, complètement. Parce que là, justement, le dernier tournage où j'étais, il y avait un jeune mec de 20 ans qui était régisseur et puis qui d'un coup m'a dit, ouais, moi, de toute façon, dans un an, je me lance dans la permaculture et tout ça. Il y a, enfin voilà, ouais. Il y a des choses.
Il y en a qui disent ça pour pécho. Et ça marche pas. Quand on perd un peu la vie, ouais, je crois que je vais me lancer dans la permaculture. La perma. Voilà, c'est pas... Je vous mets en garde, moi c'est amical. Hein, je...
Non mais voilà, il semble avoir étudié la chose très en profondeur.
Il vous déstabilise.
Non, je pense qu'elle revoit l'image, elle s'est dit peut-être c'est vrai.
Vous sentez que... pas mal d'ailleurs. Martin, appelle-moi s'il te plaît.
Il y a des consciences qui s'allument et qui passent à l'acte.
Complètement, et puis maintenant, voilà, enfin je veux dire, il est plus de mise de... De remettre en question les choses. Par contre, je trouve qu'on devrait faire un procès, nous aussi.
Oui.
Voilà, même par exemple, la montagne d'or, là, en Guyane, ouais. Ce qu'ils essaient de faire passer, enfin, c'est affreux, ouais, quoi. Oui. Une tonne de terre pour un gramme d'or, de forêt primaire. Et non, mais évidemment que moi, ça me touche énormément, d'autant que. C'est vrai que j'ai été par exemple en Amazonie, et oui, j'étais en Équateur, et d'un coup je me suis dit, c'est incroyable, parce que c'est vrai qu'en France, la pauvreté de nos forêts, mais même au niveau de la diversité des arbres, etc., enfin tout ce qu'on a perdu petit à petit, mais après c'est ce qui paraît harassant, en fait c'est moi vous voyez, j'amène mon petit gobelet en carton pour prendre mon café ici,
mais oui, c'est votre
voilà
gobelet à
parce
vous.
Que je ne veux pas, voilà, que je réutilise plusieurs fois,
ouais. Mais ça c'est pareil, moi,
parfois un meg, non mais bon voilà, sur les tournages par exemple, bon c'est des petits gestes d'essayer de, parce que sinon il y a un gaspillage permanent, quoi, mais après je sais pas, il y a des, par exemple, puis-je dire un truc, dans les magasins dans Paris, je sais pas, il y a une espèce de mode de laisser grand ouvert ouvert les magasins avec le chauffage l'hiver et la clim l'été grand ouvert. Ça, par exemple, c'est rien à faire de dire on n'a plus le droit de faire ça, on ne le fait plus. Enfin, c'est des choses très...
Qui vous paraissent élémentaires.
Voilà, élémentaires, mais qu'il faudrait... voilà, mais après, il y a tant de choses à faire... Et il faudrait s'y atteler tout de suite.
Comme ça, on a parlé un peu environnement cette semaine de COP24 qui est complètement passée à l'as en France. La COP, on compte plus tellement dessus, j'ai l'impression, en France, non? On n'en a quasiment pas entendu parler. Alors, il y a quand même les marches. Pour l'instant, celle du climat est maintenue pour demain. N'est-ce pas, Chewbacca? On vous a prêté? On peut dire qu'on vous a prêté un déguisement d'abeille?
Si
vous voyez une abeille dans le cortège, on a prêté notre costume à Chewbacca.
C'est déjà une grosse abeille, hein. C'est pas...
Alors, Calamie, il nous reste un costume de carotte et un costume de pingouin, si jamais. Voilà, je dis ça à disposition pour samedi, hein. Voilà.
La carotte, c'est plus comestible.
Laure Calami avec nous et à côté de vous, on repasse un petit peu par le Burkina Faso avec Rukyata Ouédraogo.
Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Jacques Faucard. Jacques Faucard est un vieux bâtard que j'ai adopté à la SPA peu après mon arrivée en France. J'étais seule à Paris et j'avais besoin d'affection et aussi de quelqu'un qui m'aide à comprendre cette ville si étrange et ses habitants si exotiques pour moi. Et ce n'est pas vous les deux immigrés ici présent, qui allait me dire le contraire. Vous me direz, Alex, normalement, j'aurais dû prendre un homme pour ça. D'autant que, comme disait Tanti Célestine, c'est quand même pas les hommes qui manquent à Paris, mais sûrement, il faut tomber sur le bon, et ça, c'est compliqué. Et en plus de ça, les chiens ont quelques qualités que les hommes n'ont pas toujours. La fidélité, par exemple. Donc, en attendant l'homme parfait, j'ai dû en passer par la médiation animale pour tenter d'enfoncer un clou dans cette société et cette culture française qui se dressait face à moi comme un mur d'incompréhension. C'est pour ça que j'ai baptisé ce chien Jacques Faucard. Alors vous savez, chez moi, les noms qu'on donne aux gens ne sont pas les fruits du hasard. Un nom peut conditionner une existence. Bon, ça, Zemmour ne le sait pas. On m'avait dit que le vrai Jacques Faucard avait été l'incarnation de la France-Afrique. Moi, je cherchais à établir des ponts entre ma culture d'origine et ma culture d'accueil. Ça semblait logique. Et grâce à Jacques Faucard, j'ai pu apprendre et comprendre beaucoup de choses. La passion française pour les animaux de compagnie et en particulier les chiens, par exemple. Ah non, mais ça, c'est quelque chose. Déjà, ce qui saute aux yeux, c'est la variété des chiens qu'on a ici. Mais c'est fou. Mais il y en a de toutes les formes, de toutes les couleurs, avec des queues sans queue, avec des museaux longs, des gueules écrasées, des poilus, des à poils rats, des géants, des miniatures, et j'en passe. Ça m'a fait comprendre que la société française est une société ouverte, très attachée à la diversité. Avant Jacques Faucard, je marchais seule dans la rue et personne ne venait vers moi pour me parler. Bon, vous savez, chez nous, quand on se croise, même si on ne se connaît pas très bien, on se salue longuement. On demande des nouvelles de toute la famille, du travail, de la maison, des champs, des troupeaux, etc. Dans certains villages, même les salutations peuvent durer une demi-journée. Alors, au début ici, moi, je disais bonjour à la cantonade quand je montais dans le métro. Les gens ne me regardaient même pas. Mais quand je promenais Jacques Faucard, d'autres promeneurs de chiens venaient me parler, même ceux qui n'avaient pas de chiens. Ils s'intéressaient d'abord aux chiens. Puis, il me demandait d'où je venais et il me demandait si mes cheveux étaient des vrais ou des faux. Bon, bref, la conversation s'engageait. Ah, c'est ainsi que j'ai peu à peu trouvé ma place dans mon quartier. Mais Jacques Faucard me faisait des coups fourrés. Oh, il pissait partout dans mes chaussures, volait des paquets de biscuits, puis il avait une haleine pourrie. Et puis un jour, le dieu des chiens l'a rappelé à lui. Ah, ça m'a fait un peu du mal, mais bon, ça n'a pas duré. J'avais une relation trop exclusive avec lui. Ça ne me convenait plus. Il n'était pas autonome, il fallait que je le nourrisse tout le temps, que je nettoie son panier. Enfin, je crois que je le percevais même comme une sorte de parasite à la fin. C'est bête peut-être, mais je crois qu'il fallait que cette relation cesse avec Jacques Faucard pour que je trouve ma vraie place dans la société française. Et c'est d'ailleurs après sa mort que j'ai trouvé l'amour, le vrai, avec un homme. Non, parce qu'on a beau dire, les hommes ont parfois certaines qualités que les chiens n'ont pas. Certains d'entre eux se brossent les dents, par exemple. Adieu, Jacques, je t'aimais bien.
Merci, Rukyata. Paqueta, Ouédraogo.
Vous avez repris un petit roquet que vous avez appelé Omar Bongo. C'est vrai que c'est pas vrai.
Et là, il y en a un autre qui s'appelle Robert Bourgier. Oui. Oh, donc. Et Rukata, vous êtes toujours au Théâtre du Lucernaire jusqu'au 12 janvier, c'est ça? Les jeudis, vendredis et samedis à 21h30, je vous le recommande. Hein, c'est Je vous demande la route. Allez voir Rukata ou Ouédraogo. Allez voir aussi, tiens, Laure Calamy en tournée avec le Marivaux dans toute la France. Elle est venue nous parler aussi de 10%. Et si on parlait acting, puisqu'on parlait de 10%, on pensait Hervé Mariton tomber dans les oubliettes de l'info en continu lorsqu'il manifestait entre Christine Boutin et Frigide Barjot à la Manif pour tous. Oh, quelle belle époque. L'ancien candidat à la primaire de la droite a quitté la politique, mais il reste dans le domaine de la comédie puisqu'il joue au théâtre, il interprète Solzhenitsyn. C'est vrai que la politique française n'est finalement qu'un énorme casting. Et on donne l'Oscar à qui ?
Mais moi, je me suis jamais engagé pour faire fortune.
Ah oui. Très beau.
J'ai une maison, c'est mon seul bien, que je retape tous les week-ends avec mon père. La campagne. Il me reste 14 ans de crédit à rembourser. Moi, j'ai jamais fait ça. On me fout du fric dans la poche.
On y a cru, c'était magnifique. C'était Jérôme Lavrieux, directeur adjoint de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2012, soupçonné d'être une cheville ouvrière de l'affaire Big Malion. Et c'est moi, ce rôle me bouleverse. Il y avait le meilleur espoir avec Cahuzac, mais là, Jérôme Lavrieux, c'était magnifique.
Oh là là. Ah ouais, mais moi, ça m'a intrigué, évidemment. Hier, on en a fait le sketch. Comment on voit arriver.
On fera pas mieux, Alex. Laissez
non,
tomber.
Je sais, mais on va quand même traiter le sujet. Comment on voit arriver quelqu'un qui viendrait d'une autre corporation que celle des acteurs quand on en fait partie en tant qu'acteur. C'est-à-dire que dans 10%, par exemple, il y a le cas Julien Doré, qui est un mec qui est chanteur au départ, qu'on imaginait peut-être...
Qui est acteur depuis un moment,
mais qui est devenu.
Même avant 10%.
Eh ben, mais qui est devenu.
Il avait déjà joué.
Mais donc, quand t'as... C'est proche, Bernard Tapie, à l'époque, avait fait un film avec Lelouch.
C'est plus pathétique, déjà.
Mais est-ce qu'ils sont bons, est-ce qu'ils sont pas bons, est-ce que vous, en tant qu'actrice, si on vous dit bah, demain, il y a un très très beau rôle avec Mariton. J'ai l'impression que ce silence est un début de réponse.
Oh là là là, ça
mais
c'est
pourquoi en... pas.
On peut pas refuser ça alors qu'elle a mis.
Mais non, mais écoutez, non. Comme ça il va comprendre ce que c'est que de faire ses heures et le régime spécial de l'intermittence. Il va peut-être pouvoir en parler. Non, mais voilà.
On le voit en photo dans le Parisien, il a l'air beau. Là, j'ai un peu griffonné, mais.
Mais oui, il a fait des lunettes. Bah oui.
Il les a, les lunettes, mais il a l'air beaucoup plus épanoui quand il était politique. Et donc, cette espèce d'envie de scène, il a 60 ans aujourd'hui, il n'était jamais monté sur scène. Vous pouvez comprendre qu'on ait envie de la voir.
Complètement.
Si, il était monté en meeting, mais il y avait trois personnes pour l'écouter.
Alors, c'est ce qu'il dit. Il dit que ça l'a beaucoup aidé, le meeting politique. Mais il y a un âge encore où...
Oh, mais je pense que oui. N'importe qui a le désir. Enfin, pourquoi pas tenter...
Jean-Marc Ayrault, par exemple,
mais tout à fait.
Veut brûler les planches.
Voilà, tous les hommes politiques au chômage.
En non, mais
au secours. Non, mais après, moi j'aime bien jouer avec justement des gens qui sont pas dits acteurs ou actrices. Mm-hmm, ouais. Ça m'est arrivé plein de fois et je trouve ça c'est touchant. Et même récemment, par exemple, j'étais c'est quelqu'un que j'avais rencontré qui m'avait parlé de un atelier qu'il faisait à Fresnes, et il m'a à la prison de Fresnes, et donc je suis allée voir cet atelier qu'il avait fait avec ses détenus, et c'était la première fois voilà qu'ils allaient sur scène bon texte en main, etc. parce qu'évidemment, enfin la chose à laquelle j'avais pas pensé, je dis ah c'est dommage qu'on n'ait pas fait plus court pour qu'ils apprennent le texte, et en fait en parlant avec eux, il dit bah non mais on ne peut pas apprendre un texte en cellule, on est trois, parle tout haut, les autres me butent, ils en peuvent plus, donc voilà, non mais des choses. Et voilà, il y en a un en plus qui a fait une entrée en scène où tous les autres s'en allaient derrière et ils se retrouvaient seuls. Et d'un coup, quelque chose s'est passé. Lui-même a commencé à interpréter les premières phrases. Enfin, il y avait quelque chose de...
On peut devenir meilleur en passant par ce... Et ça, c'est un beau message d'espoir pour Patrick Balkany. si ça finit mal, il pourra jouer quand même.
Moi, je soutiens Louis Mariton. Je préfère qu'il soit là.
Bien sûr.
Il a l'air heureux,
on préfère qu'il soit au théâtre, c'est vrai. Hein, bah, finalement... Voilà.
Il y en a un qui a fait une entrée discrète derrière vous, Laure Calamy, avec sa guitare. Le type est filou. C'est Frédéric Fromet. Et cette semaine, de quoi va-t-il nous chanter ?
Eh bien, après Michel Delpech, qui chantait Le Chasseur, voici le préfet de police de Paris, Michel Delpech, qui nous chante Le Casseur. Partout sur les champs, soudain j'ai vu des pseudo-gilets jaunes. Ils se dirigeaient, place de l'Étoile, tagués l'Arc de Triomphe. En face les perdreaux, matraques et lacrymo, les bleus contre les jaunes. Et les coups pleuvaient, et les yeux pleuraient, c'est bon la non-violence. Entendons les casseurs, avec mon pavé dans la main, je me savais pas très malin, plutôt racaille. Et comme je n'étais pas tout seul, on lui a foutu sur la gueule à la flicaille. Ça bastonnait, ça canardait, on était bien. Partout sur les champs, oui, on a vu des pseudo-gilets jaunes. Venu casser du flic, casser du politique, casser du journaliste. Car il est évident que c'est en cassant qu'on court vers le progrès à mort. Pour les vitrines, je dis pas, le gain est immédiat. Pour une fois que c'est gratos chez Dior. Mais voyez-vous aussi, vous jetez le discrédit sur tous les gilets jaunes gentils, les défavorisés, les vrais désespérés, au point de porter un gilet. Mais les vrais pas beaux, ce sont les hystéros. Merci les réseaux sociaux. C'est quand qu'on va où, à quand un monde tout doux, où on se ferait tous des bisous.
Waouh, Frédéric Fromet, magnifique.
Merci.
Merci, c'est bon d'entendre ça. Ouais. Merci beaucoup Frédéric. Merci. Vous jouez ce week-end ?
Oui, à Cahors samedi.
Ah, très bien. Voilà. Eh bien, profitez-en. Merci. Quelle chance ils ont à Cahors de vous avoir. Merci beaucoup Laure Calamy. C'était un plaisir de passer ce vendredi avec vous.
Moi de même.
Chouette, chouette.
Fais une petite chanson.
Vous allez, on va la rechanter celle-là. Alors je rappelle qu'il y a bien sûr la saison 3 de 10% qui vient de s'achever, qui est toute fraîche en DVD ainsi que le coffret intégral avec les 3 saisons. Vous êtes aussi en tournée avec la pièce de Marivaux et notamment Vincent de Dienne. Voilà. Rappelez-moi le titre.
Le jeu de l'amour et du hasard.
Et du hasard, bien sûr. Et voilà. Le 14 décembre, votre lecture musicale à la Maison de la Poésie. Voilà pour toute l'actualité de Laure Calamy.
Fait qui taf,
nous a fait la joie de nous accompagner. Merci les amis, Djoubaka, Rukata. Merci Alex. On va dire merci à toute notre équipe. À la préparation, Sarah Masson, Nathalie Romero, Fabrice Rivaud, notre stagiaire Paul Plumet. Il y a aussi Ramzi Assadi, Anne-Sophie Ladonne à la réalisation, à la technique. Aujourd'hui, il y a Pierre Lemierre et Patrick Henri. Et on va se retrouver lundi. Non, oui, non, ça, fait toujours, non, si, ça fait toujours si, ça fait toujours ça. Il a l'habitude, oui, Patrick, bien sûr. Patoche.
Bien sûr.
On va se retrouver lundi, bien sûr. Et bon, on vous laisse le mot de la fin.
Petite fille, bon, on me disait tout le temps, c'est un garçon manqué. Bon, expression vraiment agaçante. Alors que moi, je me disais, je suis une fille réussie. Bon.